Donc, c'est un grand plaisir de recevoir Claire Rougeul ici. Donc, je vais faire une brève introduction. Claire a fait sa thèse dans le laboratoire de Philippe Avner. C'est là où on se rencontrait il y a bien longtemps. Elle a fait sa thèse donc, sur l'inactivation du chromosome X chez la souris. Ensuite, elle est partie en postdoc à deux endroits différents, et en particulier chez Marc Lalande, qui est un grand spécialiste de l'empreinte, notre processus épigénétique. Et elle est revenue en France où elle a commencé chez Philippe Avner, et puis elle a monté son groupe à l'Institut d'épigénétique et destin cellulaire. Voilà, c'est ça, qui est près de Tolbiac depuis plusieurs années. Et elle travaille sur le processus encore d'inactivation du X chez la souris, mais aussi chez l'humain. Et vous allez voir à quel point, entre ces deux espèces, il peut y avoir une diversité de processus. Et je pense qu'elle va parler de points de vue moléculaires et phénotypiques aussi. Donc voilà. Merci beaucoup, Claire, d'être venue.
Donc, qui porte sur l'inactivation du chromosome X, la pluripotence et la reprogrammation, en essayant d'avoir une vision multi-espèce, et en particulier la souris et l'homme. Donc, le développement est vraiment un processus fascinant, en ce sens qu'il conduit, à partir d'une cellule unique, l'œuf, au développement d'un être complexe qui est doté, dans le cas de l'être humain, de plus de 60 000 milliards de cellules, aux fonctions qui sont à la fois extrêmement variées et en même temps très spécialisé. Donc le développement peut aussi être perçu comme une réduction progressive de la potentialité des cellules. Donc c'est quelque chose dont Edith vous a déjà parlé, je pense, mais la cellule primordiale, l'œuf fécondé, peut être considérée comme une cellule qui est totipotente, dans la mesure où elle a la potentialité de donner naissance à toutes les cellules qui vont constituer l'être adulte, et également aux cellules des annexes extra-embryonnaires. Progressivement, donc, à la fois la cellule primordiale et les premières cellules issues des premières divisions ont cette capacité de totipotence, et assez rapidement, au moment où les premières différenciations se mettent en place, différenciations qui vont toucher les cellules qui vont donner naissance aux vos annexes extra-embryonnaires, on observe à ce moment-là une réduction du potentiel des cellules qui vont former l'embryon à proprement parler, donc les cellules de la masse cellulaire interne au niveau du stade de blastocyste, qui elles maintenant ne sont plus totipotentes, mais pluripotentes. Donc elles peuvent encore donner toutes les cellules de l'embryon, mais en théorie elles ne sont plus capables de donner naissance aux cellules extra-embryonnaires. Et progressivement, ce potentiel donc, se réduit pour passer de la totipotence à la pluripotence, à la multipotence et enfin à l'unipotence, avec des cellules qui ne peuvent donner naissance qu'à un seul type cellulaire. Donc, naturellement, le développement et cette évolution se fait de manière unidirectionnelle vers une potentialité, d'une potentialité très importante vers une potentialité réduite. Mais on sait maintenant, artificiellement, faire le chemin inverse et partir de cellules qui sont extrêmement spécialisées pour revenir aux étapes très précoces du développement, donc peut-être pas l'œuf comme je l'ai représenté ici, mais peut-être au moins les cellules pluripotentes qui est équivalente au stade blastocyste. Et ces expériences donc, qu'on appelle de reprogrammation, parce qu'on est capable de changer complètement le programme de la cellule d'origine pour un programme beaucoup plus varié, peut s'effectuer par diverses approches qu'Edith vous a déjà bien décrites, donc soit par transfert nucléaire, soit par fusion, par génération de cellules hybrides pour générer ce qu'on appelle des hétérocaryons, ou par injection d'un cocktail de facteurs pour générer des cellules souches pluripotentes induites, ou IPS. Donc ce que ces expériences de reprogrammation ont montré de manière essentielle, et en particulier les premières expériences menées par John Gurdon, ce que ces expériences ont montré, c'est que finalement, il n'y avait pas de perte physique d'informations génétiques lors du développement. une cellule somatique complètement différenciée, à garder en elle toute l'information qui vont lui permettre de refaire le chemin intégralement, c'est-à-dire de refaire un développement précoce une fois qu'elle aura été un développement entier, pardon, une fois qu'elle aura été reprogrammée. Donc, au final, ce que ces expériences ont permis de montrer, c'est que il n'y avait pas, dans la grande majorité des cas, à l'exclusion de certaines cellules dans lesquelles il y a vraiment des réarrangements chromosomiques, mais il n'y avait pas de différence génétique entre la cellule primordiale, la cellule totipotente, et les cellules différenciées de manière terminale. Donc il y a un seul et même génome dans toutes les cellules issues d'un individu donné. Par contre, ce qui différencie toutes les cellules différenciées, ou ce qui différencie ces stades de développement, ce sont les gènes qui vont être exprimés. Et donc, s'il y a un seul génome, il y a en revanche plusieurs programmes d'expression génique qui vont permettre de mener à bien ce développement et de créer ces différentes, cette multité de cellules différenciées aux fonctions spécialisées et à la fois très diversifiées. Donc, ces différents programmes d'expression génique sont contrôlés notamment par des régulations d'ordre épigénétique. Et donc, on dit finalement qu'il y aura un seul génome, mais plusieurs épigénomes qui vont permettre d'aboutir à ces programmes de développement, ces programmes d'expression génique particuliers. Donc, l'épigénome caractérise, ces différents épigénomes vont caractériser l'ensemble du génome et des chromosomes. Mais nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce qui se passe au niveau du chromosome X, car on sait qu'il y a des remaniements importants qui se situent spécifiquement au niveau du chromosome X au cours du développement embryonnaire et également lors de la reprogrammation chez les mammifères. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce chromosome X ? Eh bien, le chromosome X, c'est le seul chromosome, finalement, avec évidemment le chromosome Y, qui est présent en un nombre de copies différents selon le sexe des individus. Donc, ceci crée en théorie un déséquilibre de dose pour tous les gènes qui sont sur le chromosome X entre les individus femelles, qui ont donc deux chromosomes X, et les individus mâles, qui ont un seul chromosome X et un chromosome Y. Donc, en pratique, ce déséquilibre est la plupart du temps compensé chez la femelle par l'inactivation d'un des deux chromosomes X dans toutes les cellules des individus femelles. Et cette inactivation donc, conduit à la formation d'une structure, donc d'un chromosome X extrêmement compacté, qui avait été initialement identifié à la fin des années 40 par le professeur Barr et qu'on appelle parfois donc, corpuscule de Barr. Donc, l'hypothèse selon laquelle la structure condensée qui forme le corpuscule de Barr était en fait un chromosome X inactif a été posée par Mary Lyon en 1961. Et cette hypothèse est basée notamment sur l'observation du pelage bigarré d'un certain nombre de mammifères, notamment les chats, ici, un pelage qu'on appelle écaille de tortue. Donc, ce que cette hypothèse propose, et ce qui a été largement vérifié par la suite, c'est que chez les individus femelles, l'inactivation du chromosome X est aléatoire et peut toucher soit le chromosome X d'origine paternelle, soit le chromosome X d'origine maternelle. Et une fois qu'elle est mise en place, cette inactivation est extrêmement stable et elle est propagée de manière clonale au cours des divisions cellulaires pour donner un individu mosaïque, un individu femelle mosaïque, dans lequel une partie des cellules aura inactivé le chromosome X paternel et une partie des cellules aura inactivé le chromosome X maternel, ce qui donne en particulier au niveau du pelage cette allure bigarrée. Donc, l'inactivation est un processus qui se met en place assez tôt au cours du développement. Je vais vous décrire ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais assez rapidement, après la première hypothèse de cette inactivation transcriptionnelle, est venue l'idée que l'inactivation du chromosome X pouvait être étroitement liée à la différenciation cellulaire. Et ça, c'est un papier qui a été publié en 1979 donc par Marilyn Monk, et qui a essayé d'étudier la cinétique de l'inactivation au cours du développement embryonnaire de la souris en s'appuyant sur l'activité enzymatique de deux enzymes, donc une enzyme qui s'appelle HPRT et qui est localisée sur le chromosome X, et une autre enzyme, APRT, qui est localisée sur un autosome. Et donc l'idée, c'était de doser l'activité enzymatique de ces deux enzymes, d'en faire le rapport. Si cette activité est égale à 0,5, ça veut dire qu'il y a deux fois moins d'enzymes actives sur le X que d'enzymes actives sur les autosomes, donc il y a un seul X qui est actif, et si c'est égal à 1, ça veut dire que les deux X sont actifs comme les deux autosomes sont actifs. Et ce que ces expériences ont permis de montrer, c'est qu'à 6 jours de développement, dans les premiers tissus qui se sont déjà différenciés, donc qui sont les tissus qui vont donner les annexes extra-embryonnaires, que ce soit l'ectoderme extra-embryonnaire ou l'endoderme primitif, le rapport de ces deux enzymes est de 0,5 qui indique que l'inactivation a déjà eu lieu. Par contre, à 6 jours de développement, lorsqu'on regarde l'épiblaste, donc les cellules qui vont donner à terme l'embryon à proprement parler, on observe une distribution bimodale en tout cas, mais la majeure partie des cellules présente un rapport de 1 qui indique que l'inactivation, il y a autant de chromosomes X actifs que d'autosomes, donc que l'inactivation n'a pas encore eu lieu. Par contre, 12 heures plus tard, la situation a complètement changé dans les cellules de l'épiblaste et on observe maintenant un rapport de 0,5 qui indique que l'inactivation a déjà eu lieu. Donc à la suite de cette assez simple observation, on va dire, en 1979, a été émise l'hypothèse donc, que l'inactivation du chromosome X au cours du développement précoce pouvait être liée à la différenciation cellulaire. Et donc, à la suite de ces travaux, Marilyn Monk a également émis l'hypothèse qui, en fait, peut-être à laquelle on n'a pas tellement prêté attention à l'époque, je ne sais pas, mais en tout cas qui aujourd'hui réveille un certain nombre de choses et qui suggère que finalement, possiblement, la présence de deux chromosomes X actifs est incompatible avec l'état différencié des cellules. Donc, depuis cette époque-là, on a pu avoir une vision beaucoup plus précise de la manière dont l'inactivation se mettait en place au cours du développement embryonnaire, notamment grâce aux travaux de l'équipe d'Edith. Et ce que ces travaux ont permis de montrer, c'était que l'inactivation chez la souris, en tout cas pour l'instant je vous parle essentiellement de la souris, se déroule en deux étapes. Donc la première étape est extrêmement précoce, dès le stade 4 cellules, donc bien avant l'implantation. Et à ce stade-là, une première inactivation au stade avant l'implantation et une deuxième vague d'inactivation du chromosome X au moment de l'implantation. Donc, qu'est-ce qui se passe de manière un petit peu plus précise? Donc, ce que ces travaux ont permis de montrer, c'est que l'inactivation qui se mettait en place très précocement, donc dès le stade 4 cellules, n'était pas une inactivation aléatoire, mais une inactivation biaisée avec une inactivation systématique du chromosome X d'origine paternelle. Donc c'est une inactivation qu'on dit empruntée ou soumise à l'empreinte parentale. Donc il y a une mémoire du chromosome, mémoire de l'origine parentale du chromosome, et c'est toujours le X paternel qui est inactivé. Cette inactivation préférentielle du chromosome X paternel, elle est maintenue dans toutes les annexes extra-embryonnaires, mais au moment, juste un petit peu avant l'implantation, dans le blastocyste, on observe une réactivation de ce X paternel dans les cellules de la masse interne qui vont donner naissance à l'embryon à proprement parler. Donc pendant une courte période de temps, pendant le développement embryonnaire de la souris, les deux chromosomes X vont être actifs dans ces cellules de la masse interne. Et assez rapidement, l'inactivation aléatoire va se mettre en place et affecter cette fois soit le X paternel, soit le X maternel. Donc cette progression suggère que l'inactivation aléatoire est bel et bien connectée à la différenciation cellulaire, mais l'étude de l'embryon à proprement parler rend assez difficile des analyses fines, parce qu'évidemment c'est assez difficile d'étudier un embryon, notamment dans tous les stades qui sont post-implantatoires, parce que c'est très difficile d'y avoir accès. Heureusement, on dispose d'un modèle cellulaire dont Edith vous a largement parlé, qui a permis de grandement accroître nos connaissances sur le processus d'inactivation, les mécanismes sous-jacents et les acteurs qui participent à ce mécanisme, que sont les cellules souches embryonnaires. Donc ces cellules de la masse interne du blastocyste peuvent être mises en culture pour donner les cellules donc, souches embryonnaires. Ces cellules ont deux propriétés majeures, qui est à la fois l'auto-renouvellement, donc elles peuvent croître indéfiniment en culture en gardant les mêmes propriétés, et en même temps, elles sont pluripotentes dans la mesure où elles ont la capacité de se différencier dans tous les feuillets, les trois feuillets germinaux, ectoderme, mésoderme et endoderme. Donc en quoi ce modèle est particulièrement intéressant quand on s'intéresse à l'inactivation du chromosome X ? Eh bien, c'est qu'il récapitule ex vivo ou in vitro toutes les étapes de l'inactivation aléatoire que l'on pense se produisent dans l'embryon. Donc à l'état ES, indifférencié lors de l'autorenouvellement de ces cellules, lorsqu'on parle de cellules ES femelles, bien évidemment, les deux chromosomes X sont actifs. Et lorsqu'on induit la différenciation de ces cellules en changeant les conditions de culture, on observe l'inactivation aléatoire soit du chromosome X paternel, soit du chromosome X maternel. Donc, ces données renforcent l'idée qu'il y a bien un lien assez étroit entre état de différenciation et inactivation du chromosome X, une hypothèse qui a été largement renforcée par l'observation de l'état du chromosome X dans toutes les expériences de reprogrammation, donc que ce soit par transfert nucléaire, par fusion entre une cellule différenciée et une cellule souche embryonnaire, ou par injection, transfection des facteurs de Yamanaka ou d'autres qui permettent la reprogrammation de cellules somatiques en cellules souches pluripotentes induites. Ce qui a été montré, en tout cas chez la souris, c'est que si on part d'une cellule somatique femelle, donc qui comporte un chromosome X actif et un chromosome X inactif, la reprogrammation de ces cellules, quel que soit le moyen, conduit à la réactivation du chromosome X inactif pour retrouver un état qui est celui qu'on trouve originellement, soit dans le blastocyste, soit dans les cellules souches embryonnaires. Et effectivement, il semblerait que cette reprogrammation soit vraiment le marqueur ultime, on va dire, que cette réactivation du chromosome X inactif serait le marqueur ultime que la reprogrammation a été efficace et a été amenée jusqu'au bout. Donc, ces données suggèrent qu'il y a vraiment un lien fort entre pluripotence, 2X actif d'un côté, différenciation, un chromosome X actif, un chromosome X inactif. La situation, en fait, est comme toujours, jamais aussi simple, et ça dépend finalement de ce qu'on entend par pluripotence. Et on sait que différents états de pluripotence peuvent être dérivés chez la souris. Donc, je vous ai parlé des cellules souches embryonnaires qui sont dérivées de la masse interne du blastocyste à un stade compris entre 3 jours et demi et 4 jours et demi de développement. Donc, ces cellules souches embryonnaires ont des capacités d'auto-renouvellement, elles sont pluripotentes, et elles ont deux chromosomes X actifs lorsqu'on parle de cellules femelles. On peut aussi maintenant, et ça c'est quelque chose qui est plus récent, dériver des cellules d'un stade un tout petit peu plus tardif, donc de l'épiblaste, aux alentours de 6 jours et demi de développement. Donc pour donner ce qu'on appelle des épiblast stem cells ou EPISC, donc ces cellules sont également pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de donner naissance aux 3 feuillets embryonnaires. Elles ont la capacité de former des chimères lorsqu'elles sont injectées dans un embryon à un stade approprié. Mais pourtant, elles sont relativement différentes des cellules souches embryonnaires qui, elles, sont dites naïves, en ce sens qu'elles ont un profil d'expression génique qui est assez différent et qu'elles ont déjà un chromosome X inactif. Donc, il semblerait qu'elles soient un tout petit peu plus différenciées, mais néanmoins, elles gardent les caractéristiques de la pluripotence. Donc, malgré ce bémol, on peut quand même dire qu'il y a chez la souris un lien étroit entre l'activité des chromosomes X et l'état de différenciation des cellules. Avec la cellule pluripotente, j'ai mis des guillemets parce que je vous ai montré que ça dépend de ce qu'on entend par pluripotente et quel état de pluripotence de quel état de pluripotence on parle, mais disons que la cellule pluripotente a 2X actifs, alors que la cellule différenciée va avoir un chromosome X actif et un chromosome X inactif. Donc de cette observation viennent un certain nombre de questions. La première, c'est y a-t-il un lien de causalité entre ces deux processus ? Est-ce que l'état de différenciation contrôle l'activité du chromosome X, ou est-ce que c'est l'inverse ? Ou est-ce que c'est l'activité du chromosome X qui contrôle l'état de différenciation ? Et ensuite, la question sous-jacente est quelle est la nature moléculaire de ce lien qui est pour l'instant un lien purement empirique. Donc pour comprendre la nature moléculaire du lien entre différenciation cellulaire et inactivation du chromosome X, il faut se pencher sur les acteurs de l'inactivation, donc tous les facteurs qui sont impliqués dans la mise en place de ce processus au cours du développement embryonnaire. Alors, l'inactivation du chromosome X, elle est contrôlée par une région du chromosome X qu'on appelle centre d'inactivation et qui est agrandi sur ce schéma. Et ce que cette région a de particulier, c'est qu'elle contient un certain nombre, elle contient un certain nombre de gènes qui codent pour des protéines, mais elle contient surtout un grand nombre de gènes qui sont ici représentés en couleur et qui vont produire des ARN non codants. Donc, jusqu'à un temps relativement récent, l'idée dogmatique était que finalement un gène se définissait par une région de l'ADN qui allait, par l'intermédiaire d'un ARN messager, produire une protéine. On sait maintenant, grâce aux travaux d'analyse des génomes à grande échelle, que finalement l'essentiel du génome va donner naissance à des ARN, mais qui n'ont pas de potentiel codant, qui ne vont pas être transformés en protéines, mais qui ont des fonctions régulatrices par eux-mêmes. Et donc le centre d'inactivation, la région qui contrôle l'inactivation, contient un nombre assez important de gènes produisant des ARN non codants, dont un qui est l'acteur essentiel du processus et qui est le gène XIST. Donc XIST, comme je vous le montre, le gène XIST est localisé au niveau du centre d'inactivation. Il est exprimé exclusivement à partir du chromosome X inactif, alors qu'en général ce chromosome est complètement silencieux. Il est conservé chez les mammifères eutériens, et en particulier chez l'humain, et il est indispensable à l'initiation de l'inactivation. Donc là, ce que cette diapositive vous montre, c'est l'évolution de l'expression de XIST lors de la différenciation des cellules souches embryonnaires. Donc lorsqu'on est dans un état pluripotent indifférencié, XIST s'exprime très faiblement à partir des deux chromosomes X, et lorsqu'on induit la différenciation de ces cellules souches embryonnaires femelles, on observe une activation massive du gène XIST, donc non seulement une activation de sa transcription, mais une accumulation du transcrit qui va rester dans le noyau et qui va recouvrir le chromosome X à partir duquel il est transcrit, pour former vraiment ce qu'on appelle un nuage autour du chromosome X à partir duquel il est transcrit. Et c'est ce recouvrement qui va induire à la fois l'extinction transcriptionnelle des gènes par des mécanismes qu'on n'a pas encore tout à fait élucidés, et également des modifications drastiques de la structure de ce chromosome pour conduire à un chromosome X inactif qui est condensé, qui forme donc le corpuscule de Barr. Donc XIST est vraiment l'élément clé qui régule l'inactivation. Ce n'est pas le seul. D'autres gènes produisant des ARN non codants de la région semblent être également impliqués dans la régulation de XIST. Ça a été particulièrement bien montré pour certains et plus suggéré pour d'autres. Et puis, il y a également des facteurs plus classiques, je dirais, qui codent pour des protéines, qui sont aussi impliqués dans la régulation de XIST. Et donc, ce que je voulais juste vous montrer par les couleurs que j'ai apposées sur cette diapositive, c'est que donc, vous avez XIST en vert, qui est essentiel pour l'inactivation. En rouge sont représentés les facteurs qui vont participer à la répression de XIST, et donc à empêcher l'inactivation, donc TSX, un transcrit antisense à XIST, et un autre ARN non codant, LINX, également, qui a été identifié par l'équipe d'Editeur, et dont on pense qu'il va faciliter l'expression de XIST, et donc, de TSX, pardon, et donc la répression de XIST. Et en vert sont représentés d'autres acteurs qui, eux, semblent participer à l'activation de XIST, donc ils vont promouvoir l'inactivation du chromosome X. Et ce que vous pouvez voir assez rapidement, c'est qu'ils ne sont pas du tout mélangés physiquement dans cette région, mais qu'ils semblent bien ségréger les répresseurs d'un côté et les activateurs de l'autre. Et quand on regarde quel est le profil d'expression de tous ces gènes, en particulier tous ces ARN non codants, lors de la différenciation des cellules souches embryonnaires, on s'aperçoit qu'ils ont une expression extrêmement dynamique qui va varier au cours de la différenciation. Donc les répresseurs de XIST et de l'inactivation, eux, sont fortement exprimés au stade pluripotent, lorsqu'il n'y a pas d'inactivation. Et leur expression diminue lorsqu'on différencie les cellules. À l'inverse, XIST et ses potentiels activateurs sont, eux, assez peu exprimés dans les cellules pluripotentes, et leur expression augmente lors de la différenciation de ces cellules. Donc il y a non seulement un lien entre l'état de l'inactivation du chromosome X et la différenciation, mais plus précisément, il y a un lien entre l'expression des acteurs de l'inactivation et l'état de différenciation des cellules. Et donc on a voulu aller un peu plus loin et savoir quel était ce lien, et plus précisément, est-ce que les facteurs de pluripotence, donc dont Edith vous a largement parlé, et en particulier le triumvirat clé de la pluripotence OCT, CAT, SOX2 et NANOG. Est-ce que ces facteurs pourraient finalement contrôler le processus d'inactivation directement en contrôlant l'expression des gènes qui sont responsables de l'inactivation? Et donc nous avons voulu dans un premier temps répondre à cette question en nous intéressant aux facteurs clés, à XIST. Et donc ce que nous avons pu montrer par des expériences qu'on appelle d'immunoprécipitation de chromatine, mais qui reviennent à essayer de cartographier où dans l'ADN se lient les facteurs qui nous intéressent. Donc ici est représentée une vision agrandie de la région XIST et de son antisens. Et ce que nous avons pu montrer, c'est que OCT4, SOX2 et également NANOC, que je ne vous montre pas sur cette diapositive, se lient de manière très spécifique dans une région intronique du gène XIST. Et de manière un petit peu plus fonctionnelle, si on force la perte rapide du facteur OCT4 dans des cellules souches embryonnaires mâles. Donc je vous rappelle que des cellules souches embryonnaires mâles ne vont jamais inactiver un chromosome X parce qu'elles n'en ont qu'un seul. Donc il y a un mécanisme très précis qui s'assure qu'il n'y aura pas d'inactivation de l'unique chromosome X chez les mâles. Mais si on force artificiellement la perte rapide de ce facteur OCT4 dans des cellules ES mâles, on observe une accumulation rapide de XIST qui va, dans un pourcentage non négligeable de cellules, recouvrir l'unique chromosome X et induire son inactivation transcriptionnelle. Donc ces résultats indiquent d'une part que l'expression de XIST est contrôlée par les facteurs de pluripotence, donc XIST semble être réprimée par les facteurs de pluripotence, et elle suggère également que cet effet pourrait être direct via la fixation de ces facteurs au niveau de l'intron 1 de XIST, même si cette hypothèse a été récemment controversée, et donc on n'est pas tout à fait, pour l'instant, en mesure d'établir dans quelle proportion cet effet est direct ou indirect. Nous avons également voulu voir si un des répresseurs connus de XIST, TSX, pouvait être régulé lui-même par les facteurs de pluripotence, et nous avons montré que c'est également le cas, bien que ce soit un autre réseau de gènes qui soit impliqué. Donc dans ce cas-là, il s'agit de REX1, KLF4 et CEMIC, qui, je vous rappelle, sont en tout cas KLF4 et CEMIX, des facteurs qui sont très importants pour la production de cellules souches pluripotentes induites. Et ce qu'on voit, c'est que ces facteurs se fixent au niveau d'une région qui régule l'expression de l'antisens TSX, et que lorsqu'on diminue artificiellement la concentration d'un de ces facteurs dans la cellule souche embryonnaire, notamment REX1, on diminue l'expression de l'antisens TSX. Donc il semble qu'il y ait un lien au niveau de XIST, un lien au niveau de TSX. Et ce qui a été montré depuis, c'est que finalement, les facteurs de pluripotence semblent contrôler de manière plus ou moins concertée un grand nombre des acteurs de l'inactivation. Donc c'est récapitulé sur cette diapositive. Donc des facteurs de pluripotence qui répriment XIST, qui réprimeraient également d'autres activateurs de XIST, potentiellement FTX et en tout cas RNF12, et des facteurs de pluripotence qui vont activer les répresseurs de l'inactivation. Donc finalement, la pluripotence active ce qui empêche l'inactivation et réprime ce qui promeut l'inactivation, qui permet de commencer à comprendre quelle est la nature du lien moléculaire entre inactivation du chromosome X et différenciation cellulaire. Donc là, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est que le réseau de facteurs qui contrôlent la pluripotence impacte l'inactivation en régulant les acteurs de ce processus. Ce qui a été montré très récemment, encore une fois par l'équipe de Edith, c'est que l'inverse est également vrai. Donc les personnes qui travaillent avec les cellules souches embryonnaires de souris, en particulier avec des cellules souches embryonnaires de souris femelles, s'arrachent les cheveux depuis pas mal de temps en se disant « Mais pourquoi mes cellules souches embryonnaires femelles différencient toujours plus mal que mes cellules souches embryonnaires mâles ?» Évidemment, c'est très énervant parce qu'on a besoin qu'elles se différencient pour observer l'inactivation. Et donc, c'est quelque chose, je pense qu'on avait tous plus ou moins en tête, de savoir que les cellules femelles se différenciaient moins bien que les mâles, mais personne n'a eu le courage ou l'idée ou l'intelligence d'aller creuser ça plus loin. Et donc, c'est ce que le labo d'Edith a fait. Et donc, ils ont fait une analyse très, très poussée de ce qui se passe pendant les étapes très précoces de la différenciation des cellules souches. Et ce qu'ils ont pu montrer en étudiant l'expression d'abord de manière générale et puis en se focalisant sur un certain nombre de gènes clés, c'est que finalement les cellules ES femelles présentent un retard de différenciation par rapport aux cellules ES mâles. Donc les gènes qui sont des gènes qu'on retrouve qu'à l'état pluripotent restent exprimés plus longtemps dans des cellules ES femelles que dans des cellules ES mâles. Et ce que l'équipe a pu montrer, c'est que ce n'était pas tellement le fait d'être femelle ou mâle, c'était le fait d'avoir deux X ou d'en avoir qu'un seul. Si ces cellules ES XX perdent un X, elles restent femelles, elles ne deviennent pas mâles, et pourtant elles se comportent maintenant comme des cellules mâles. Donc c'est plus le nombre de chromosomes X qui est important plutôt que le sexe réellement de ces cellules. Et donc la question est de savoir, est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'inactivation du chromosome X qui normalement se produit dans ces cellules ? Et la réponse, a priori, est oui, parce que si on force l'inactivation en induisant l'expression d'OXYS de manière artificielle très très rapidement, eh bien, on observe que les cellules femelles, maintenant, vont avoir tendance à se comporter comme des cellules... Donc les cellules XX vont avoir tendance à se comporter maintenant comme des cellules avec un seul X, donc des cellules XO ou des cellules XY. Donc il y avait beaucoup plus d'études dans cet article, mais... Ce que ça montre, c'est que l'activation forcée d'OXYS donc accélère la différenciation. Et finalement, la conclusion principale, c'est que la présence de deux chromosomes X actifs bloque la sortie de pluripotence. Donc ça ne le bloque pas évidemment de manière indéfinie, parce qu'au final, les cellules ES, Dieu merci, et les embryons femelles finissent par se développer, sinon la plupart d'entre nous ne seraient pas... pas là aujourd'hui, mais en tout cas, ces résultats sont vraiment très intéressants, non seulement pour comprendre nos tracas de laboratoire, et plus généralement pour comprendre le lien entre inactivation et différenciation, et aussi pour comprendre des observations qui ont été faites depuis un certain temps et qui consistent l'observation d'un retard, un léger retard de croissance des embryons femelles par rapport aux embryons mâles, et donc ce léger retard de croissance pourrait au moins en partie être expliqué par ce processus. Donc en résumé, chez la souris, il y a un lien étroit entre inactivation du chromosome X et l'état de différenciation des cellules. Donc d'une part, l'expression de plusieurs acteurs essentiels de l'inactivation, et notamment des ARN non codants, est régulée par les facteurs de pluripotence. Et d'autre part, l'activité du chromosome X impacte la capacité des cellules à se différencier. Donc il y a une régulation mutuelle de ces deux processus. Donc qu'en est-il des autres espèces? Et qu'en est-il notamment chez l'humain? Donc on pensait qu'avoir accès à des cellules souches embryonnaires humaines allait nous permettre de répondre de manière assez aisée à cette question. Ça n'est absolument pas le cas, et la situation chez l'humain est beaucoup plus complexe, moins comprise. On ne sait pas très bien ce que veut dire complexe, on ne sait pas si c'est parce qu'on ne comprend pas qu'on appelle ça complexe, mais en tout cas, pour l'instant, c'est en tout cas très différent de la souris. Et donc chez la souris, je vous rappelle, une cellule ES a deux X actifs, dont l'un s'inactive en cours de différenciation. Chez l'humain, c'est très différent. Les premières cellules avaient l'air de se comporter, ES humaines avaient l'air de se comporter comme les ES de souris, mais finalement, cet état semble assez instable. Et finalement, la plupart des cellules souches embryonnaires humaines, donc pluripotentes, indifférenciées, très bien caractérisées, possèdent un chromosome X inactif qui est recouvert par l'ARN XYST. Et cet état lui-même est instable, et spontanément, l'expression d'OXYS va être perdue en culture. De la même manière, si on s'intéresse à ce qui se passe lors de la reprogrammation, lorsqu'on part d'une cellule différenciée avec un chromosome X inactif et qu'on la reprogramme avec les facteurs de pluripotence, de manière analogue à ce qui a été fait chez la souris, la cellule se reprogramme, elle redevient pluripotente, et pourtant, il n'y a pas de réactivation du chromosome X inactif. Donc il y a quelques différences qui semblent se produire au niveau des marques d'histone sur le X inactif, mais globalement, il n'y a pas de réactivation du chromosome X inactif lorsqu'on reprogramme des cellules somatiques humaines en cellules pluripotentes. Donc, qu'est-ce que ça nous dit finalement sur le lien entre inactivation et pluripotence? Est-ce que ce lien n'existe pas chez l'humain? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça, parce qu'on sait qu'au final, une cellule différenciée va avoir un chromosome X inactif, donc il y a un lien quand même entre différenciation et inactivation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules ES humaines sont beaucoup plus proches des cellules épiblast stem cell dont je vous ai parlé tout à l'heure en termes de transcriptome, en termes de conditions de croissance. Donc elles ressemblent beaucoup plus aux cellules dérivées de l'épiblast de la souris qui, elles, je vous le rappelle, contiennent aussi un chromosome X inactif. Donc on ne sait pas exactement quelle est la nature de ces différences, mais je pense qu'il y a à la fois une question d'état de pluripotence, et donc finalement, là, on est plutôt dans un état amorcé plutôt qu'un état naïf, et il y a probablement aussi des différences entre les espèces que nous essayons de comprendre au laboratoire. Donc si maintenant on s'intéresse à la régulation d'oxyste pour voir s'il y a un lien entre l'expression d'oxyste et la pluripotence, ce que j'ai à vous dire est assez frustrant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose. Donc chez la souris, je vous rappelle que l'oxyste est réprimé à la fois potentiellement par les facteurs de pluripotence qui se lient au niveau de son intron et également par d'autres facteurs qui eux-mêmes sont régulés par les facteurs de pluripotence. Chez l'humain, on ne sait absolument pas si les facteurs de pluripotence contrôlent l'expression d'oxyste. C'est quelque chose qu'on a cherché. On n'a pas trouvé pour l'instant, mais comme toujours, un résultat négatif ne veut pas dire grand-chose. Donc, la question reste ouverte, de même pour la fonction d'un éventuel antisens. Donc, pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment existe et réprimé chez l'humain, si ce n'est qu'il semblerait que la méthylation de l'ADN soit assez importante dans ce cas. On a également voulu savoir si le lien entre pluripotence et inactivation du chromosome X chez l'humain pouvait se faire par le biais d'autres acteurs. Et dans le cadre d'une analyse à grande échelle de tous les transcrits qui sont présents dans les cellules souches embryonnaires humaines, nous avons identifié un nouveau gène qui produit un très long ARN non codant, que nous avons appelé XACT, donc qui ne provient pas de la région du centre d'inactivation, mais d'une région qui est assez loin sur le chromosome X. Donc il produit un ARN assez grand, plus de 250 kilobases en taille, qui est polyadénylé et essentiellement nucléaire. Et lorsque nous avons regardé par hybridation in situ comment s'exprimait cet ARN non codant, nous avons pu voir que dans les cellules souches embryonnaires humaines, cet ARN non codant XACT formait un nuage qui ressemblait beaucoup au nuage que forme XIST sur le chromosome X inactif. Cependant, ce que nous avons pu montrer, c'est que XACT, alors que XIST recouvre le X inactif, cet ARN XACT recouvre le chromosome X actif. Donc on a finalement dans ces cellules-là une image en miroir avec le chromosome X actif recouvert par XACT et le chromosome X inactif recouvert par XIST. Et ce que nos données d'études de la conservation suggèrent, c'est que cet ARN XACT, il est spécifique de l'humain, ou en tout cas de certains primates, mais a priori, il n'existe pas chez la souris. Donc ça souligne potentiellement des divergences entre ces espèces. Donc ça, c'est ce qui se passe dans des cellules souches embryonnaires. Nous avons voulu savoir si c'était un artefact de culture, on va dire, ou s'il y avait une réalité biologique derrière ça, en regardant ce qui se passe dans des embryons humains. Et nous avons pu faire ça grâce à une collaboration avec Edith Patra dans le laboratoire d'Edith. Et donc, je vous rappelle ce que Edith vous a déjà mentionné et qui consiste en une autre différence entre l'inactivation chez l'humain et l'inactivation chez la souris. C'est que dans les étapes préimplantatoires du développement humain, les deux chromosomes X sont actifs, alors que chez la souris, le chromosome X paternel est inactif. Et ils sont tous les deux recouverts par l'ARN de XIST. Donc XIST est là, il recouvre les chromosomes, mais il n'induit pas leur inactivation. Donc nous avons voulu regarder, est-ce que XACT était exprimé dans ces embryons humains, et si oui, comment se comportait son ARN. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que XACT est bien exprimé pendant l'embryogenèse précoce chez l'humain, donc ce n'est pas un artefact des cellules en culture, ça peut être une réalité biologique, et que dans ces cellules, il recouvre, dans ces embryons femelles, il recouvre les deux chromosomes X de manière concomitante à XACT. Et donc la question se pose de savoir est-ce que XACT pourrait jouer un rôle protecteur et empêcher XIST finalement d'avoir son effet répressif sur les chromosomes, mais ça c'est encore purement spéculatif. En tout cas, chez l'embryon, c'est assez difficile évidemment de faire des études fonctionnelles pour voir quelle est la fonction de cet ARN non codant. Donc on s'est retourné vers notre modèle de cellules souches embryonnaires. Et donc je vous ai expliqué que dans ces cellules-là, les profils d'expression de GZIST étaient très instables. Donc on a des cellules qui expriment GZIST, qui ont un chromosome X inactif qui est recouvert par GZIST, et on a montré que XACT est présent sur le chromosome X actif. Et ce qu'on sait, c'est que spontanément, en culture, l'expression de GZIST va être réprimée. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que lorsqu'on perd GZIST, maintenant, on accumule XACT sur les deux chromosomes. Donc la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de l'activité des gènes sur ce chromosome X qui était originellement inactif et recouvert par GZIST et qui maintenant a perdu GZIST et est recouvert par XACT. Donc on a regardé ça par deux approches complémentaires. Donc une approche d'imagerie qui vise à regarder dans l'ensemble l'expression de tout le chromosome et puis une approche plus moléculaire pour regarder par RNA-seq la transcription. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que lorsqu'il y a un chromosome X inactif recouvert par GZIST, on n'a qu'un seul des chromosomes X qui s'exprime, c'est ce qu'on voit en rouge là. Maintenant, ce qu'on voit en rouge, c'est l'expression du chromosome X dans son ensemble, grâce à une approche qu'on a développée au laboratoire. Et ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on perd GZIST, et que XACT maintenant s'accumule sur les deux chromosomes X, on voit que le deuxième chromosome X, qui avant était inactif, commence à être exprimé. Donc il n'est plus tout à fait inactif, mais potentiellement, il n'est pas complètement actif non plus, ce qu'on a confirmé par des expériences de séquençage massif de tous les transcrits. On a pu montrer que le chromosome X, qui était originellement inactif, se réactive partiellement lorsqu'il est recouvert par XACT et lorsqu'il a perdu GZIST. Donc c'est ce que j'indique ici par ces petits points bleus qui signalent l'activité maintenant qui revient sur ce chromosome. Et donc on a voulu savoir, étudier le lien de causalité entre tous ces processus. Donc finalement, on part d'une cellule qui a un chromosome X inactif recouvert par GZIST, on aboutit à une cellule qui a, où GZIST n'est plus là, où XACT est là, où le chromosome est partiellement réactivé. Et donc on peut envisager deux scénarios. Donc le premier, finalement, on perd GZIST, parce qu'il se réprime tout seul. Il n'y a plus de GZIST, donc le chromosome n'arrive plus à rester inactif et se réactive, exact faisant partie du chromosome X, il se réactive comme les autres gènes, et donc c'est plus une conséquence de la réactivation qu'autre chose. L'hypothèse alternative, c'est que finalement, le premier événement, ce serait l'expression de GZACT, et que c'est ça qui peut-être entraînerait la perte de GZIST et la réactivation du chromosome. Donc pour essayer de répondre à cette question, on a essayé de capturer finalement les étapes intermédiaires des cellules dans un état intermédiaire entre ces deux états. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on n'avait jamais de cellules qui avaient perdu GZIST sans avoir XACT. Par contre, on arrivait à identifier un certain nombre de cellules. Ici, on voit 41% des cellules qui ont encore GZIST, mais dans lequel XACT commence à s'exprimer. Donc il semblerait de cette expérience que l'expression de XACT précède la perte de GZIST. On a aussi voulu regarder ce qui se passe au niveau de l'activité des gènes, et donc pour l'instant on a regardé l'expression que d'un seul gène, donc c'est évidemment pas suffisant, mais en tout cas ce que ça suggère, c'est que donc, c'est un peu compliqué ici, mais vous avez en vert GZIST, en rouge XACT et en bleu un gène du chromosome X. Donc, originellement, le gène du chromosome X, il est exprimé qu'à partir du chromosome X actif. Et ce qu'on voit, c'est que lorsque XACT commence à s'exprimer à partir du chromosome X inactif, ce gène-là, il n'est pas encore exprimé. Donc, l'expression de XACT précède aussi la réactivation du chromosome X dans son ensemble. Donc finalement, le scénario qui semble se dessiner de ces expériences, c'est que le premier événement à se passer, c'est que XACT va avoir tendance à être réexprimé, à se réexprimer à partir du chromosome X inactif, que le chromosome X va se réactiver et qu'il va y avoir enfin une perte d'expression de GZIST. Donc, ces résultats pourraient suggérer qu'il y a un rôle de XACT dans ce processus, que c'est vraiment, ce serait à l'origine de ça, mais ça reste vraiment à démontrer, c'est juste une hypothèse. Mais ce que ça semble dire, c'est que finalement, l'état pluripotent pourrait favoriser l'expression de cet ARN non codant XACT. Et donc pour ça, nous avons voulu un petit peu plus creuser le lien entre cet ARN non codant et la pluripotence. Et donc nous avons regardé ce qu'il advenait de l'expression de ce transcrit lorsque on différenciait nos cellules souches embryonnaires. Et donc ce que nous avons montré, c'est que XACT reste exprimé pendant les stades précoces de la différenciation, mais finit par s'éteindre progressivement pour être complètement réprimé dans une cellule complètement différenciée. On a également voulu aborder cette question par un système assez joli de différenciation-reprogrammation auquel nous avons pu avoir accès grâce à l'équipe de Anne-Lise Benasseur à Villejuif. Donc, ce que l'équipe d'Anne-Lise avait fait, c'était de prendre des cellules souches embryonnaires humaines, de les différencier en cellules souches mésenchymateuses, de reprogrammer ces cellules souches mésenchymateuses en IPS et de redifférencier ces IPS-là en cellules souches mésenchymateuses deuxième génération. Donc là, on a finalement un état pluripotent, un état différencié, on revient à un état pluripotent par reprogrammation et on redifférencie. Et on a regardé quel était le profil d'expression d'EXACT dans ce contexte. Et ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, on ne trouvait l'expression d'EXACT, donc ici sur les deux chromosomes X, parce qu'on est parti de cellules qui n'avaient plus XIS, donc qui expriment XACT à partir des deux chromosomes X, et on peut voir que l'expression de XACT est restreinte au contexte pluripotent. Donc on la perd lorsqu'on différencie les cellules, ce qu'on avait déjà vu précédemment, mais on est capable, l'expression de XACT se récapitule lorsque l'on reprogramme les cellules pour former des cellules souches pluripotentes induites, et cette expression est à nouveau perdue lorsqu'on différencie ces cellules IPS. Donc il y a vraiment un lien entre expression de XACT et contexte, état de différenciation des cellules. On n'est pas forcément tellement plus avancé, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire sur le sujet, mais juste pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que donc, ce qui a été montré, c'est qu'il y a une régulation mutuelle entre inactivation du chromosome X et différenciation chez la souris. On peut se poser la question de la conservation de ce lien entre pluripotence et activité des chromosomes X chez l'humain, mais il est probable que dans une certaine mesure, ce lien soit conservé, peut-être pas par les mêmes acteurs. Et finalement, donc, on a identifié cet ARN non codant XACT, donc qui semble être spécifique de l'humain, dont pour l'instant, on n'a que des prémices sur ses potentielles activités. Tout ça, c'est très, très préliminaire, mais il serait potentiellement appliqué dans le contrôle de l'activité du chromosome X chez l'humain et également potentiellement corrélé avec l'état de différenciation de la cellule. Et donc, la question qu'on voudrait poser, c'est est-ce que finalement, XACT pourrait-il assurer le lien moléculaire entre ces deux processus chez l'humain ? Donc, pour l'instant, ce que je vous ai dit, c'est il y a des facteurs de pluripotence qui contrôlent l'inactivation, qui contrôlent les gènes de l'inactivation, et l'état du chromosome X contrôle la différenciation. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aurait un facteur, ou peut-être certainement plusieurs, parce que un, c'est toujours trop simple, mais qui pourrait à la fois contrôler l'inactivation et aussi contrôler plus ou moins directement la différenciation. Et c'est une hypothèse. On aimerait voir si XACT pourrait à la fois avoir une fonction dans l'inactivation du chromosome X et une fonction peut-être dans la différenciation des cellules, puisqu'il est exprimé qu'à l'état pluripotent. Et finalement, par extension, est-ce que chez la souris, il existerait aussi un ARN non codant qui pourrait jouer un rôle à l'interface de ces deux processus pour vraiment assurer de manière très fiable le couplage moléculaire entre la différenciation des cellules et l'inactivation du chromosome X. Et puis, de manière ultime, on peut se poser une question à laquelle je n'ai absolument pas la réponse, c'est finalement, quel est l'intérêt pour la cellule d'avoir couplé ces deux processus. La seule chose à laquelle on peut penser, c'est que finalement, effectivement, deux chromosomes X actifs, c'est quelque chose qui n'est pas viable pour la cellule, et il fallait qu'elle s'assure absolument que le développement s'accompagne de l'inactivation d'un des deux chromosomes dans le cas des embryons femelles. Donc, je voudrais remercier mon équipe, donc en particulier Céline Vallot, qui a fait tout le travail sur l'ARN XACT avec l'aide de Christophe Huré et tous les autres membres qui ont largement contribué à ces travaux, et nos collaborateurs, donc Pablo Navarro et Philippe Avner, pour tout ce qui concerne l'étude de la régulation de XIST et de TSX par les facteurs de pluripotence, Catherine Patra, éditeur, donc pour notre collaboration avec les embryons humains, et d'autres personnes, donc l'équipe de Cécile Martina et d'Anis Benasseur pour tout ce qui concerne les cellules souches embryonnaires humaines, et puis de Marc Lalande au Connecticut pour des analyses de bioinformatique, et je vous remercie pour votre attention.